sommes, il nous a parlé par son Fils.
Alléluia, nous l'aider. Alléluia, nous goûter.
Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Les parents venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Je n'ai pas pensé à rappeler, je pense que chacun a cherché une parole de vie. Je redis ce qu'est une parole de vie. C'est une phrase qui a été dite dans l'Évangile et qui nous aide à prier. On ne peut pas tout retenir, mais on peut essayer de garder une phrase qui orientera nos journées. Est-ce que quelqu'un a une parole de vie ?
Alléluia.
Personne ?
Cet enfant sera le relèvement et la chute du peuple d'Israël. C'est Siméon.
Quelqu'un d'autre ? Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Dans ceux qui ont la feuille provinciale, je vous ai mis le relevé dessus, c'est une invitation à aller lire l'exhortation apostolique du pape, la joie de l'amour. Il y a eu 2 synodes, il y a 2-3 ans, à 1 an d'intervalle, et le pape a essayé d'adresser une parole sur la famille, s'adressant aussi bien à ceux qui ont pu se marier, avoir des enfants, vivre toute la fidélité, qu'à ceux qui ont connu d'autres difficultés, rappelant ont éventuellement correspondu à tout, que le péché est aussi chez eux, et les appelant à un regard de miséricorde sur d'autres, à ne pas penser qu'ils sont parfaits, parce que personne n'est parfait, et invitant chacun à se demander comment je peux grandir dans la sainteté, quelle que soit la situation. Ce texte, je l'ai envoyé à tous ceux qui ont l'adresse email. Mais je l'ai aussi sous forme imprimée pour qui veut. Alors c'est un texte un peu long, mais c'est très très long. Les lectures de ce temps de Noël nous invitent à contempler Marie et Joseph qui ont donné vie à Jésus et l'accueillent, lui permettent de grandir, de se préparer à révéler l'amour du Père. Une famille tout ordinaire, une famille dans laquelle Jésus va apprendre à travailler de ses mains, une famille insérée dans un quartier, un pays, une famille qui n'a pas échappé aux galères, aux caprices de César voulant recenser la terre, aux caprices d'Hérode exterminant le nouveau-né. Nous sommes appelés à contempler Jésus qui doit grandir en sagesse, qui s'est fait homme au point de devoir apprendre à lire, à écrire, à marcher. Grandir, c'est laisser conduire. Ce dimanche, nous sommes appelés à contempler d'autres figures de famille dans l'Évangile. Il y a d'abord le vieillard Siméon, tout tendu vers le fait de prendre Jésus dans ses bras et de le présenter au monde. C'est le but de sa vie. Il le poursuit, guidé par l'Esprit Saint. Il y a aussi la veuve Anne, dont je pense, qui est cachée. La dame Chapelier, elle ne se cache pas. Non, c'est pas elle, je pense. Qui a 94 ans. Et bien, à Bois-l'Abbé, nous avons aussi Anne, qui régulièrement nous partage la parole de Dieu. Elle est toute préoccupée de servir Dieu et de parler de Jésus. Voilà. C'est comme à Jean 23, le temple de Jérusalem. Dans son exhortation apostolique post-synodale, La joie de l'amour, le pape François nous invite à contempler la famille, à regarder comment nous ouvrir plus à l'Esprit Saint en famille et dans l'accueil des familles telles qu'elles sont. Pour lui, la famille est la vraie sculpture vivante capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. C'est au paragraphe 11 de l'exhortation. La Trinité se révèle sous les traits de la famille, l'image de Dieu, communion de personnes. Le pape dit que la plus forte image de la Trinité, c'est la famille. Il commence son exhortation par ces mots. La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Il veut stimuler les familles chrétiennes à valoriser les dons du mariage et encourager chacun à être signe de miséricorde. Le pape François commence par un parcours de l'Écriture, une méditation de toute l'Écriture, et il dit « La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. » Les Écritures ne nient pas la présence de la douleur, du mal, de la violence qui brise la vie de la famille et son intime communion de vie et d'amour. Jésus lui-même naît dans une famille modeste qui bientôt doit fuir vers une terre étrangère. Il entre dans la maison de Pierre où la belle-mère de celui-ci est malade. Il se laisse impliquer dans le drame de la mort dans la maison de Jaïr, ou chez Lazare. Il écoute le cri désespéré de la veuve de Naïm face à son fils mort. Il écoute la clameur du père de l'épileptique dans un petit village en campagne. Il rencontre des publicains comme Matthieu Zachée dans leur propre maison, ainsi que des pécheresses comme la femme qui a fait irruption dans la maison du pharisien. Il connaît les angoisses et les tensions des familles qu'il introduit dans ses paraboles. Des enfants qui abandonnent la maison pour tenter une aventure, jusqu'aux enfants difficiles, au comportement inexplicable ou victimes de la violence. Et il s'intéresse même aux noces qui courent le risque d'être honteuses par manque de vin ou par l'absence des invités. Tout comme il connaît le cauchemar à cause de la perte de tout l'argent dans une famille quand c'est difficile de terminer le mois. La parole de Dieu n'est pas abstraite, c'est la compagne de voyage y compris pour les familles qui sont en crise. Et au paragraphe 64, il écrit « L'exemple de Jésus est un paradigme pour l'Église. Le Fils de Dieu est venu dans le monde au sein d'une famille. Il a inauguré sa vie publique sous le signe de Cana, accompli lors d'un banquet de noces. Il a partagé des moments quotidiens d'amitié avec la famille de Lazare et de ses sœurs, et avec la famille de Pierre. Il a écouté les pleurs des parents pour leurs enfants leur rendant la vie, et manifestant ainsi la véritable signification de la miséricorde qui implique la restauration de l'Alliance. Ceci ressort clairement des rencontres avec la Samaritaine et avec la femme adultère, chez qui la perception du péché se révèle face à l'amour gratuit de Jésus. » Et le pape François reprend le discours de Paul VI à Nazareth, que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on reçoit en famille est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. En lisant ça, je pense à tout l'effort qui est fait par les associations de parents d'élèves sur les collèges du Bois-la-Ville. Je vous ai hier une relecture de l'association des Atriolais, des parents qui essaient de voir comment aider à l'école, comment aider les jeunes à apprendre à réussir. Le pape François rappelle que la famille est la première cellule d'Église. Il demande à ce que le regard de Christ inspire la pastorale de l'Église à l'égard des fidèles qui sont en, entre guillemets, situation imparfaite. Et il appelle, face aux situations difficiles, à être attentif à la souffrance des personnes, à bien discerner et éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité. Il appelle à un amour à l'image de Dieu, qui patiente et manifeste son pouvoir quand il fait miséricorde. Pour le pape François, avoir patience, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu'on nous traite comme des objets. Il s'agit de ne pas exiger la perfection de l'autre, ni défendre notre seule volonté et laisser libre cours à nos pulsions. Je vous invite à lire cette exhortation apostolique, en particulier le chapitre 4 et 5. Le chapitre 4, c'est sur l'amour dans le mariage. Le chapitre 5, c'est l'amour qui devient fécond. Il y a une très belle méditation de l'hymne à l'amour dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne, une cymbale retentissante. Avant d'appeler ceux qui le peuvent à recevoir le sacrement du mariage, le pape François dit « Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous, Dieu qui se reflète dans les époux. La conséquence concrète, c'est que le mariage a pour mission de rendre visible l'amour du Christ dans la vie ordinaire. » C'est pas banal, ça. À ceux qui hésitent, se marier, pas se marier. C'est une super vocation. Le mariage est l'icône, l'image de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui se reflète dans les époux. Il a pour mission de rendre visible l'amour du Christ dans la vie ordinaire. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un faire du bien. Vous vous souvenez à la veillée de Noël, quand on demandait « Où est-ce que tu vois un signe de l'amour de Jésus, de la présence de Jésus ?» Et les enfants disaient « C'est ma maman !» Ils avaient parlé aussi bien que le pape. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un fait du bien. À chacun, chacune, quelle que soit la situation de votre famille, je vous souhaite une très bonne fête de la Sainte Famille, moment pour voir quel petit pas faire pour refléter mieux l'amour du Christ en famille. Bonne fête à chacun et à chacune.